Michaël Correa, bonjour.
Bonjour.
Journaliste spécialiste des questions climatiques à Mediapart, vous animerez demain soir un débat à la salle du Royal à Gap avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, autour du thème écologie sociale, même combat. Alors, on va bien évidemment revenir sur l'objet de ce débat. Avant cela, vous avez publié en 2018 aux éditions La Découverte une histoire populaire du football. Vous revenez aux origines, j'allais dire populaires, du ballon rond au travers du monde, bien loin du foot business qu'on voit aujourd'hui. Quand on est un passionné de foot et journaliste spécialiste des questions climatiques, on se cache les yeux quand on regarde un match de la Coupe du Monde au Qatar ?
Eh ben oui, c'est pas facile du tout. J'ai eu pas mal de tergiversations pour savoir comment me positionner. Il y a une tribune qui est sortie dans Libération il y a à peu près un mois, que j'avais co-signée avec d'autres journalistes, hein, notamment Nicolas Kismartov de SoFoot et Jérôme Latta du Monde, pour dire que fallait quand même rappeler que les supporters, ou en tout cas les amoureux du ballon, étaient pas les co-responsables de ce qu'on voit actuellement au Qatar, hein, que c'était bien, qu'il y avait quand même l'État français qui était limite co-organisateur de ce mondial, puisque je rappelle, il y a quand même quelques citations en justice pour Nicolas Sarkozy ou Michel Platini ou Zinedine Zidane qui est ambassadeur de ce mondial-là. Mais donc effectivement, faut pas pointer du doigt les amoureux du football, mais plutôt l'institution footballistique, et rappeler que malgré tout, hein, le football, c'est tout le propos du livre que j'ai écrit, beaucoup plus grand que la FIFA, il est beaucoup plus large que ça. Moi, à titre personnel, j'ai décidé de pas regarder. Je pense que le désir de regarder un beau match de football a été tué par toutes les positions, que ce soit celle de l'équipe de France ou celle du président de la FIFA, Gianni Infantino. Ça a vraiment cassé. On va dire que le dégoût a pris le pas sur le désir.
Cette Coupe du Monde, c'est vrai qu'elle est fondamentalement entachée. On revient d'ailleurs sur le débat de demain, écologie sociale, même combat, puisque les questions écologiques et les questions sociales, ce sont elles qui entachent lourdement cette compétition.
Bah oui, c'est pourquoi il y a un peu justement ce dégoût pour cette compétition, et pourquoi il y a ce particularisme-là autour du Qatar. C'est qu'effectivement, déjà par rapport à la Russie il y a 4 ans, c'est que la question climatique, elle a beaucoup plus monté dans le débat public. C'est une question que tout le monde aujourd'hui a compris que le réchauffement climatique était une réalité en cours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un méga événement comme celui-là, qui plus est dans un pays qui est un des plus grands producteurs de gaz au monde, on fait venir toutes les 10 minutes un avion avec des supporters parce que le pays est beaucoup trop petit pour accueillir tous les supporters. Bon, ça pose vraiment un vrai problème. Effectivement, d'un point de vue social aussi, il y a eu cette fameuse enquête du journal britannique The Guardian qui a démontré qu'il y avait au moins 6500 morts, d'ouvriers morts sur les chantiers des stades de cette compétition-là. Ces deux questions-là, sociales et écologiques, font qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce de trop-plein. C'est pas une dérive du football, hein. C'est vraiment une fuite en avant, une marchandisation extrême du football qui a conduit à ce que ce soit aujourd'hui synonyme d'une catastrophe à la fois sociale et écologique.
Vous pensez vraiment qu'écologie et sociale, c'est le même combat ? Souvenez-vous, il y avait eu les bonnets rouges contre l'écotaxe, il y avait eu les gilets jaunes contre la taxe carbone. En fait, quand on demande aux citoyens et aux entreprises de préserver l'environnement, on répond oui. Mais quand on touche au portefeuille, là, c'est un non qui se termine dans la rue.
Bah, je pense qu'il faut remettre un peu l'église au centre du village, comme on dit. Sur les gilets jaunes, ils avaient tout d'accord, toutes les bonnes raisons de se révolter. Et même pas mal de gens du mouvement climat ont ensuite essayé de raccrocher les wagons de ce mouvement-là. Je rappelle, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministère de l'économie, que pro-personnellement parlant, au fait, la fiscalité carbone, elle pèse 4 fois plus sur les foyers les plus précaires que sur 20% des foyers les plus précaires que sur 20% des ménages les plus riches. Et pour donner un autre chiffre, et ça pareil, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le GIEC, hein, les experts de l'ONU sur le climat, il y a 10% des plus riches sur la planète qui sont responsables de quasiment la moitié des émissions de CO2. Donc faut vraiment se rappeler qu'aujourd'hui, c'est surtout les modes de vie insoutenables qui sont les premiers émetteurs de CO2 dans le monde, et que c'est forcément aussi les plus riches, automatiquement, qui sont les premiers responsables de la crise climatique en cours. Je vous donne un dernier chiffre et j'arrête avec les données. Il y a le patrimoine financier des 63 milliardaires en France. En gros, il émet autant de carbone que le patrimoine financier de plus de la moitié des Français. Donc on voit vraiment où est-ce que ça se situe aussi, où est-ce qu'il faut justement commencer à attaquer en termes de taxation, en termes de sobriété aussi. Je rappelle que la sobriété, ça commence par le haut, justement, et par justement les personnes qui ont des plus gros patrimoines financiers, et donc il faut du plus la planète, que par le bas. Faire de la sobriété par le bas, ça s'appelle de la précarité.
Oui, mais avec ce type de discours, justement, est-ce que vous n'allez pas décourager le bas à avoir des gestes éco-responsables? C'est-à-dire que tout le monde peut dire, bah, pourquoi finalement j'irais trier, tout simplement, alors que tout en haut, personne ne fait rien.
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut se dire, bien évidemment, il faut garder les vrais ordres de grandeur. Hein. C'est ce que j'ai démontré aussi dans mon enquête. J'ai publié en début d'année à la découverte criminelle climatique de rappeler qui sont les vrais gros émetteurs. Donc, effectivement, il y a les ultra-riches. Effectivement, il y a aussi les très grosses entreprises. Je pense notamment à Total Energy, par exemple en France, qui émet autant de CO2 que l'ensemble des Français. Il faut avoir ça en tête. Ensuite, effectivement, chacun doit faire sa part, doit faire une petite part de ce dont il est responsable, mais en fonction de ses moyens. Ça veut dire que quelqu'un qui est issu des classes populaires, il a une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Donc, il a forcément un effort à faire beaucoup moindre que quelqu'un issu d'une classe moyenne ou d'une classe supérieure. C'est plutôt ça qu'il faut avoir en tête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un discours, qui est un espèce de discours dominant qui est là depuis une trentaine d'années, j'ai envie de dire, qui est aussi porté aujourd'hui par le gouvernement, qui est de dire chacun doit faire, tout le monde, tous les Français doivent se mobiliser pour le climat. Et pour vous donner un exemple de cette absurdité de ce discours-là, il y a un grand discours qui a été, par exemple, il faut baisser le thermostat à 19 degrés. Tout le monde doit chauffer à 19 degrés sa maison. Le problème, c'est qu'en France, il y a 12 millions de précaires énergétiques en France, et qu'au fait, chauffer sa maison à 19 degrés, pour ces 12 millions de personnes-là, c'est-à-dire augmenter le chauffage à 19 degrés. Donc chacun ne part pas du même endroit, donc chacun n'a pas les mêmes efforts à faire, en fait, à cette problématique climatique-là.
Dernière question, Michael Correa. Au-delà d'écologie et sociale, est-ce qu'on peut dire aussi considération écologique et justice sociale? Aujourd'hui, c'est un peu ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que, selon vous, les syndicats sont toujours vecteurs de justice sociale? On les entend souvent taper sur le patronat, mais on rappelle quand même, dans les Alpes du Sud, 90% du tissu économique, ce sont des TPE, des PME, des employeurs qui saturent aujourd'hui. On les oppose pas parfois inutilement, employés, employeurs, patronat et salariés?
Bah, je pense que la question aujourd'hui, et c'est un peu le débat qu'on aura demain aussi, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats, ou en tout cas même les travailleurs au sein des entreprises, peuvent être des grands vecteurs de transformation écologique de ces entreprises-là. En fait, on est en train de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de collectifs, voire même de syndicats qui se montent, notamment, et aussi au sein de la CGT, hein, d'ailleurs, au sein des syndicats traditionnels, pour justement transformer écologiquement l'entreprise. Juste pour vous donner deux exemples, notamment pendant le Covid, on a eu tous les gens de l'industrie de l'aéronautique, dans le bassin toulousain, par exemple, qui se sont rendus compte que pendant le Covid, au fait, ce qu'ils faisaient, en tout cas, comme les avions étaient au sol, ça ne servait à rien ce qu'ils faisaient, et qui se sont rendus compte, au fait, qu'ils avaient des savoir-faire qui pouvaient aussi être utilisés pour fabriquer des éoliennes ou fabriquer des autobus, et qui ont monté tout un collectif de salariés pour dire, voilà, comment on peut mettre en place, comment on peut mettre au service nos savoir-faire industriels, au service de la transition écologique, dans la raffinerie de Grand-Puy, en région francilienne.
Très rapidement, Michael Correa, désolé.
Oui, pardon. Eh ben, ces ouvriers-là, de la raffinerie de Total, sont aussi actuellement en train de réfléchir à comment transformer écologiquement leur raffinerie pour notamment soit faire de l'hydrogène ou des produits d'isolation thermique pour les maisons.
Merci beaucoup, Michael Correa. Rendez-vous donc demain, 1er décembre, à Gap, pour un débat écologie sociale. Même combat avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, 19h, salle du Royal.